La Sangha est invitée à retourner à sa respiration, afin que l'énergie de la pleine conscience puisse nous rassembler comme un organisme, coulant comme une rivière, sans plus aucune séparation. Puisse la Sangha tout entière respirer comme un seul corps, écouter comme un seul corps, chanter comme un seul corps, transcendant les frontières d'un soi illusoire, nous libérant ainsi des complexes de supériorité, d'infériorité et d'égalité.
Cher Sangha, nous sommes le 12 janvier l'an 2014. Nous sommes dans la salle de méditation Assemblée des étoiles du hameau du bas du village des pruniers pendant la retraite d'hiver l'an 2013, l'an 2014. Premièrement, nous avons étudié la première ligne du chant du matin. Commençons par la phrase « Le corps du Dharma, du corps du Dharma rayonne la lumière du matin » ou « Le corps du Dharma rayonne la lumière du matin ». Et nous avons appris que le corps du Dharma est notre propre pratique. C'est une des définitions du mot corps du Dharma. Et la deuxième phrase est je m'assois calmement, assis paisiblement, mon esprit est calme, je souris. Et la traduction anglaise est beaucoup plus longue, c'est pareil pour la traduction française. Assise dans la concentration, notre cœur est en paix, un léger sourire naît sur notre lèvre. C'est très long, tandis qu'en vietnamien, il n'y a que 7 mots. Et pourtant, on n'arrive pas à traduire tout le sens de la phrase. La phrase est simplement, la phrase signifie simplement assis bien tranquillement. Assis, ce n'est pas bien de traduire comme dans la concentration. Et ces deux mots aussi parlent de notre corps, l'un des trois arcions. Et puis, notre cœur est en paix. Ici, on passe au domaine de l'esprit, des pensées. Et je souris, un léger sourire naît sur mes lèvres, ça concerne les paroles. Et dans la traduction anglaise comme française, ça ne montre pas clairement les trois actions. Une fois assis, tout de suite on peut calmer nos trois actions, c'est-à-dire notre corps, nos pensées et nos paroles. Les trois actions. C'est-à-dire la première chose à faire dès qu'on est assis, c'est de calmer ces trois domaines, le corps, l'esprit et la bouche. Bien sûr, pendant la méditation assise, on ne parle pas, on sourit seulement. Même si la bouche ne parle pas, mais le discours mental continue. Le discours intérieur continue. C'est pour ça, dès qu'on s'assoit, il faut calmer ces trois choses, le corps, l'esprit, le mental. et la bouche. Souris légèrement. Et c'est ça la signification. C'est très court. La traduction française est très longue. Et c'est pareil qu'en anglais. C'est une recommandation. Le matin, il fait très frais. Notre corps du Dharma a la chance de rayonner. Et une fois assis, on calme son corps, ses pensées, ses paroles. Dans le chant traditionnel en chinois, du soi dans le chant du soi. Tai a déjà appris au mnémonial, mais peut-être vous l'avez déjà oublié. La nuit est divisée en 5 parties et la première partie, c'est le début de la nuit. Et ici, c'est la troisième partie de la nuit. Non, ici, c'est la cinquième partie, c'est-à-dire très tôt le matin. Le chant du matin. Et comme ceci, à la cinquième partie de la nuit, c'est-à-dire très tôt le matin, ceux qui connaissent le chinois, vous devez apprendre tout ça pour chanter. Et la porte du Dharma est grand ouvert. Alors le chant traditionnel, c'est la cinquième partie de la nuit arrive, c'est-à-dire très tôt le matin. La porte du Dharma est grand ouvert. Tandis que le chant du soir, c'est la première partie de la nuit arrive et tout le monde monte sur leur lit. Parce que dans la tradition, on fait la méditation assise sur son lit, dans sa chambre, avant de dormir. Et les trois actions du corps, des pensées, des paroles, sont calmes, sont purifiés. Et on voit la nature originelle du Bouddha, le visage du Bouddha. Quand on voit le Bouddha, naturellement, ces trois actions sont calmes, se calment. Et pour le chant du matin, que tout le monde atteigne la compréhension parfaite de Prajnaparamita. Et il faut connaître l'origine de nos chants. La cinquième partie de la nuit arrive, la porte du Dharma est grande ouverte, que tout le monde puisse monter sur l'estrade de la compréhension parfaite de Prajnaparamita. Que tout le monde comprenne parfaitement les trois véhicules, c'est-à-dire le véhicule des auditeurs, des disciples des auditeurs, des éveillés par eux-mêmes et des bodhisattvas, c'est-à-dire pendant la méditation assise, que tout le monde comprenne parfaitement les enseignements des trois véhicules, Shravaka, le véhicule Shravaka, c'est-à-dire des disciples auditeurs, et puis des éveillés par eux-mêmes, et puis des bodhisattvas. Que tout le monde embrasse les trois vérités. Il y a deux vérités. Premièrement, c'est la vérité relative. La vérité conventionnelle et ensuite la vérité ultime. Parce que le soleil de la sagesse, merveilleux en haut, commence à dissiper tous les nuages, à faire disparaître tout le brouillard, les nuages, comme quand le soleil se lève, ça fait disparaître tout le brouillard. Alors, notre vision profonde nous aide à comprendre parfaitement les enseignements des trois véhicules pour embrasser les deux vérités, la vérité conventionnelle et la vérité ultime. Alors, c'est ce que Thaï chantait tous les jours quand il était encore novice. Et ce côté... Et l'autre côté, c'est le chant du soir. À la première partie de la nuit, on monte sur son lit. Alors, dans la tradition, entre parenthèses, dans la tradition, dans tous les temples, à 7 heures, il y a les sons de la cloche, de la grande cloche, pendant toute une demi-heure, et chaque moine, chaque moniale, s'assoit en méditation sur son lit. Et de son lit, on entend la cloche et aussi le chant d'un moine. Et avec une foi profonde, je pratique la recollection du Bouddha. et on se tourne vers le pic des vautours. Alors, ce sont les chants que le Thaï chantait tout le matin, tous les soirs, avant sa méditation assise, quand il était encore novice. Les moines lémoniales d'origine chinoise devraient connaître ces chants. Et vous pouvez chanter en chinois à la Sangha. Est-ce que frère Zhen Guang peut faire ça? Vous pouvez faire un jour pour la Sangha. C'est la deuxième fois que vous apprenez ces chants. Et notre traduction, c'est un jour nouveau. Je fais le vœu de faire des pas en pleine conscience. Et ce mot dit signifie passer. Nous avons une nouvelle journée, nous avons 24 heures toutes nouvelles et nous voulons les vivre en pleine conscience. C'est ce que nous voulons nous dire aujourd'hui, comme c'est beau. Et je suis déterminée à vivre ces 24 heures en pleine conscience. Que je les vive en pleine conscience et pas comme un somnambule. Et l'idée de cette ligne ne se trouve pas dans le chant traditionnel. Et cette phrase est très belle. C'est comme le gatha au réveil que nous récitons tous les jours. Et puis la quatrième ligne, le soleil de la sagesse. Il illumine tous les lieux. Quand nous sommes en méditation le matin, le soleil se lève et nous faisons le vœu. Nous souhaitons que notre propre soleil de la sagesse se lève comme ça. Ce matin, quand Thaï est sorti de sa chambre, Thaï a vu que tout le monde marchait de manière différente et Thaï a dit à ses intendantes, on peut marcher comme à la manière qu'on veut tant que chaque pas nous apporte la joie et le bonheur. On peut marcher lentement ou vite. L'important, c'est d'avoir la joie et le bonheur à chaque pas. parce que dans le passé, quand on n'a pas encore rencontré le Dharma, on a marché comme si on courait, comme si on était chassé par les fantômes. On ne sait pas pourquoi on courait comme ça. Et parfois on trébuchait, on tombait. Autrefois, une grande vénérable est venue au village des pruniers de Hanoï. Elle est disciple d'un grand maître, l'auteur d'un dictionnaire chinois-vietnamien et vietnamien-chinois. Et elle a chanté un chant populaire. Le chant populaire dit que pourquoi tu cours comme ça? Pourquoi tu cours comme ça et tu tombes, tu trébuches, tu fais de faux pas? Et puis elle a ajouté deux lignes. Soyez solide comme nous, on ne tombe jamais, on marche tranquillement, solidement et on ne tombe jamais. Et avec la pratique, si on ne pratique pas, on n'a pas la joie et le bonheur à chaque pas, alors ce serait très dommage. Et si dans la vie, tout, on ne fait que courir, et qu'est-ce qu'on cherche? C'est pour ça, quand vous êtes au village des pruniers, la première chose à faire, c'est de marcher de manière qu'à chaque pas, vous avez la paix, la joie et le bonheur. Et c'est ça la différence. Et si vous arrivez à faire ça au village des pruniers, quand vous rentrez chez vous, quand vous allez au supermarché, vous pourrez marcher de la même manière. Vous pourrez marcher de la même manière à l'aéroport, à la gare et du parking à notre lieu de travail, nous pouvons marcher comme une personne libre. Libre face aux soucis, libre de soucis du futur, du passé, et c'est une personne libre. En regardant une personne marcher, nous savons, en regardant un moine, une moniale ou un pratiquant laïque marcher, on peut voir combien de liberté cette personne a. Ce n'est pas difficile. Et notre bonheur dépend de notre liberté. Sinon, on n'a pas la liberté, on n'a pas le bonheur. C'est pour ça, chaque pas nous aide à restaurer notre liberté. Notre liberté face aux soucis, au futur. Quand nous sommes au village des pruniers, si vous restez une semaine, alors pendant 7 jours, vous devriez marcher de manière que ça devienne une habitude. Et si vous restez 2 semaines, tant mieux pour vous. Et il faut vous entraîner pour acquérir cette habitude de marcher comme une personne libre, comme une personne heureuse. Et vous pourrez, c'est quelque chose que vous pourrez transmettre à vos enfants, à vos petits-enfants. Et si nous courons, peut-être parce que nos parents et nos grands-parents ont couru aussi et nous avons reçu cette habitude de courir, de nous presser. Et maintenant, nous rencontrons le Dharma. Nous devrions réajuster. Et si nous devenons une personne libre, alors nos parents en nous deviennent des personnes libres aussi. Et nous pratiquons non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos parents, pour toute la famille. Marchons comme une personne libre. Un jour, c'est beaucoup. Si pendant cette journée, vous vous entraînez à marcher, alors 24 heures, c'est beaucoup. Alors, vous pouvez faire beaucoup. Alors, et quand vous marchez dans la salle de méditation, vous pratiquez, et c'est pareil partout où vous allez. Si vous êtes déterminé, vous pouvez pratiquer. Et chaque pas devrait vous apporter la paix, la joie et le bonheur. Et c'est ce qu'on peut faire. Et on peut faire tout de suite, aujourd'hui. On n'a pas besoin d'attendre jusqu'à demain. Et quand nous marchons ainsi, nous utilisons trois choses. Notre corps, nos pensées, notre bouche. Notre bouche se tait. Notre mental ne pense pas. Notre corps, notre mental et notre bouche, ces trois choses sont bien calmes et nous devenons une personne libre à chaque pas. Et la liberté et la libération. Et notre respiration est aussi importante que nos pas. Nous respirons de manière qu'en respirant, nous devenons des personnes libres. Avant d'inspirer, peut-être nous ne sommes pas libres, mais en commençant à inspirer, nous sommes libres. Et c'est facile à comprendre. Nous avons des soucis, nous sommes tristes, nous souffrons, nous sommes en colère. Tout à coup, il y a un son de la cloche et nous prêtons notre attention à la respiration, nous inspirons et en inspirant, nous focalisons notre attention à 100% à notre inspiration et quand nous sommes bien concentrés sur notre inspiration, nous ramenons notre esprit à notre corps et c'est quelque chose que nous pouvons faire en une seconde. Notre corps est ici. Et notre esprit est là-bas. Et une inspiration bien concentrée, avec une inspiration bien concentrée, nous pouvons ramener notre esprit à notre corps. C'est parce que nous sommes concentrés à 100% sur notre inspiration. J'inspire, je sais que j'inspire à 100%. Nous sommes concentrés sur notre inspiration. C'est ce qu'on appelle la concentration. Et cette concentration est cultivé en une seconde, deux secondes, trois secondes. Une inspiration peut durer 4 secondes et en 4 secondes, nous pouvons cultiver la concentration. Et si nous sommes totalement concentrés sur notre inspiration, alors tous les soucis du passé, du futur disparaissent. Tous les soucis disparaissent. C'est ça, la concentration est capable de nous aider à tout lâcher. Lâcher tous les soucis du passé, du futur. Et on peut le faire en 2 secondes, en 3 secondes. Et nous devenons une personne libre en inspirant. Alors, le processus de cultiver la liberté peut durer 3 secondes. Et pendant ces 3 secondes, nous pouvons tout lâcher et nous devenons une personne libre. Notre esprit ne pense pas, notre bouche ne parle pas, complètement concentré sur l'inspiration, et une seule inspiration peut déjà nous apporter beaucoup de paix, de joie et de bonheur, comme un pas en pleine conscience peut nous aider à devenir une personne libre. Chaque respiration, chaque pas nous aide à devenir une personne libre. Et une fois libre, notre décision a beaucoup plus de valeur, beaucoup plus de qualité que lorsque nous avons beaucoup de colère en nous, beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse. Une décision faite sur la base de la colère, de l'irritation, n'est pas une bonne décision, et cette décision va nous apporter beaucoup de souffrance. Mais si nous inspirons en quelques secondes et nous devenons une personne libre, nous n'avons pas de soucis, de colère. Bien sûr, cette décision doit être meilleure. C'est pour ça, le fruit de la pratique vient immédiatement. Il suffit une seule inspiration ou un pas en pleine conscience et nous avons déjà beaucoup plus de liberté. Et sur la base, sur la fondation de cette liberté, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons a beaucoup plus de valeur. Et c'est ce que nous pouvons faire à chaque instant. Et c'est l'entraînement. Et nous apprenons à faire ça, operant conditioning. Et si en expirant, nous respirons de la même manière, alors de plus en plus nous avons la liberté. Nous avons la liberté dans toutes les positions, assises, marchées, debout. Tout à l'heure, à midi, nous allons manger ensemble ici et nous sommes encouragés à manger de manière que nous soyons libres. Nous ne mangeons pas de soucis, d'irritation, de passé, de futur. Nous sommes bien établis dans le moment présent. Nous sommes en contact avec les merveilles de la vie dans le moment présent. Nous sommes en contact avec la Sangha et nous mangeons de manière que nous ayons la liberté, la fraternité, et c'est un entraînement, c'est un operating conditioning. Et le bonheur n'est pas un paquet venant, un colis venant de la poste. Le bonheur ne tombe pas du ciel, mais c'est quelque chose que nous cultivons. Et nous savons que le mot corps du Dharma a le sens, a un autre sens, c'est l'univers merveilleux. Et dans le christianisme, il y a les pratiquants qui voient ce que les bouddhistes voient. Par exemple, Saint François d'Assise, un jour, pendant la marche, pendant la promenade, il se promenait dans l'enceinte de son monastère en passant devant un amandier. Il contemplait, cher amandier, parle-moi de Dieu. S'il te plaît, parle-moi de Dieu. » Et tout à coup, tout l'amandier s'est épanoui en fleurs. Si on n'a pas la pleine conscience, en passant devant l'amandier, on n'aurait pas vu, on n'aurait rien vu. L'amandier est une merveille de la vie. Si nous avons des soucis, la souffrance dans notre cœur, même si l'amandier est en fleur, on ne le voit pas. Mais si nous sommes une personne libre, nous pouvons entrer en contact avec les merveilles de la vie. Et l'amandier est devenu tout l'arbre s'est épanoui, tout l'arbre est en fleur pour la réponse. C'est ça Dieu. Il y a une autre histoire zen. Un moine, un novice est venu à un temple pour y rester pendant trois ans et après 3 ans, il a vu qu'il n'a rien appris de son maître. Et il a beaucoup de complexes. Un jour, il voulait absolument demander à son maître de lui apprendre quelque chose de merveilleux, de profond. Cher maître, je suis là depuis 4 ans. Et vous ne m'avez rien appris d'important. Et le maître lui a demandé, est-ce que tu as vu le pain dehors? Non, je ne l'ai pas vu. Alors sors et tu vas le voir. Et cette histoire devient un koan, comme un koan de pain dans la cour. Tous les jours, on passe devant le pain. Combien de fois, mais on l'a jamais vu. On n'a pas encore vu que ce pain est une merveille. On n'a pas vu que le pain est l'incité, qu'il est Dieu. Si on est en pleine conscience, on peut unifier son corps et son esprit, alors on peut être en contact avec toutes les merveilles. Si vous voulez avoir une connexion avec Dieu, si vous voulez écouter l'enseignement de Dieu, alors il suffit de contempler l'amandier et respirer et puis vous l'entendrez enseigner. Alors le corps du dharma est pareil, le dharmakaya. Autrefois, quand le Bouddha était encore vivant, il enseignait avec son corps physique. Mais quand son corps physique s'est décomposé, il a encore son corps du dharma. C'est-à-dire, son enseignement est toujours là. Nous avons toujours son corps du dharma. Et dans le Mahayana, il est dit que le corps du dharma est les merveilles du cosmos. Par exemple, cette orchidée est une merveille de l'univers, comme l'amandier, comme le pain. L'amandier du saint François d'Assise ou le pain de Maître Zen Jiu Tiao. Alors, cette orchidée est pareille. Si nous avons la pleine conscience, si nous avons, si nous sommes parfaitement en pleine conscience, nous voyons que cette fleur enseigne l'impermanence, le non-soi, les quatre nobles vérités, le noble chemin octuple. Et si on ne l'entend pas enseigner, c'est parce que nous n'avons pas la pleine conscience, la concentration. Nous ne sommes pas bien établis dans le moment présent. Et dans le bouddhisme Mahayana, il est dit que le Bouddha n'a jamais cessé d'enseigner. Si vous avez les oreilles, vous pouvez entendre le pain enseigner, l'oiseau enseigner. Chaque fois que le vent souffle à travers les pins, alors vous entendez les enseignements du Bouddha. Et c'est ça le corps du Dharma. C'est pour ça dans le bouddhisme Mahayana, on entend parler, on entend que les bambous violets, le nuage argenté, tout ça, ce sont les corps du Dharma. Parce que tout ça enseigne le Dharma. Et si vous n'entendez pas l'enseignement, c'est parce que vous êtes sourd, parce que vous n'êtes pas établi dans le moment présent. Et c'est ça la signification du corps du Dharma, des merveilles du Dharma. Le soir, on regarde les étoiles, ce sont les merveilles de la vie. On se lève à 4h, 4h30, on sort et on voit tout est merveilleux. Et dans l'étude de la manifestation seule, la conscience du Tréfonds, contient le corps du Dharma, toutes les merveilles de l'univers. Et quand nous voyons les étoiles, c'est ça la conscience du Tréfonds. Nous voyons notre conscience du Tréfonds, parce que l'univers est l'objet de la conscience. L'univers est la conscience. Dans l'étude de la manifestation seule, on parle de l'objet de la perception, Vishaya en sanskrit. Il y a trois sortes d'objets. Alors, premièrement, c'est la réalité des choses, la chose telle qu'elle est, la chose en soi, la réalité telle qu'elle est, l'être en tant qu'être. L'être en tant que l'être. La chose en soi. Parfois, on l'appelle aussi sous un autre nom, Shvalakshana en sanskrit, la forme en soi. Alors, l'objet de la conscience du Tréfonds est la chose en soi, est l'incité, est le corps du Dharma. Alors, donc, dans le bouddhisme, la conscience du Tréfonds est équivalent à Dieu, à la réalité ultime. et la méthode, la perception de la conscience du tréfonds est directe. Autrement dit, la conscience du tréfonds perçoit les choses de manière directe. C'est-à-dire une perception directe sans intermédiaire, sans pensée, sans l'intermédiaire des pensées, des réflexions. Sans réflexion. Parce que quand il y a la réflexion, il y a la construction mentale. Par contre, la conscience du tréfonds perçoit les choses directement et son objet est la chose en soi. C'est pour ça qu'elle est non voilée. Elle n'est pas voilée. Elle est capable de percevoir directement les choses sans passer par la réflexion, les pensées. Et c'est pour ça que la conscience du tréfonds est capable d'être en contact avec la réalité ultime, avec l'incité, la chose en soi. C'est pourquoi on dit qu'elle est non voilée. Mais les autres consciences peuvent être voilées. Par exemple, le manas ou le mental, les autres consciences peuvent être voilées. La conscience du tréfonds n'est ni bonne ni mauvaise. Et c'est la grande différence entre le bouddhisme et le christianisme. Et peut-être les chrétiens, en regardant profondément, ils voient également ceci. Parce que les chrétiens identifient Dieu avec le bien. Dans le christianisme, les chrétiens identifient Dieu avec le bon. Avec l'existence, avec l'être. Il y a les théologiens qui disent que Dieu est la fondation de l'être. Et Dieu est le bien et la fondation de l'être. Mais la conscience du Tréfonds n'est ni bonne ni mauvaise, ni voilée, ni l'être ni non-être. C'est la réalité ultime. Parce que la réalité ultime n'est ni bonne ni mauvaise, ni l'être ni non-être. Et c'est ça la différence. Parce que si Dieu est la fondation de l'être, alors qu'est-ce qui est la fondation du non-être? Alors, ceci est une interrogation. Si Dieu est la fondation de l'être, alors qu'est-ce qui est la fondation du non-être? D'un côté est l'être, si Dieu est la fondation de l'être, alors qu'est-ce qui est la fondation du non-être? Alors c'est l'interrogation. Alors, dans la psychologie bouddhique, la conscience du Tréfonds n'est ni être ni non-être. Il y a le sutra de Kakchayana. Le moine Kakchayana a demandé au Bouddha, qu'est-ce que c'est la vue juste? Le Bouddha a répondu, la vue juste est la vue qui transcende les notions d'être et de non-être. La réalité ultime, on dit que la réalité ultime est l'être, c'est faux. Et c'est faux également de dire qu'elle est non-être. Et c'est pareil, Dieu, si on dit que Dieu est la fondation de l'être, alors c'est faux aussi parce que Dieu transcende l'être et le non-être. Et si on demande est-ce que Dieu existe, c'est une drôle de question parce que Dieu transcende les notions d'existence et de non-existence. Et il y a les théologiens chrétiens qui ont vu ça. C'est une interrogation. Et la deuxième interrogation, c'est si Dieu est le bien, alors Dieu n'est pas le tout, parce que à part le bien, il y a aussi le mal. Alors, qui est la fondation du mal? Satan. Alors, si Dieu est le bien, alors il n'est pas tout. Dans le bouddhisme, il est très clair que la conscience du Tréfonds n'est ni mauvaise ni bonne. Les notions bon, mauvais, être, non-être, ce sont des notions des consciences évoluées, c'est-à-dire le manas, le mental et les cinq consciences des organes sensoriels. Il est dit dans le sutra que la conscience du Tréfonds est comme l'océan et à cause du vent, il y a les vagues et ces vagues sont le manas, le mental, les cinq consciences, les organes sensoriels. Ce sont les consciences évoluées et les consciences évoluées ont les notions de bon, de mauvais et pas la conscience du Tréfonds. C'est pour ça dans le bouddhisme il est clair que la réalité ultime est ni mauvaise ni bonne. Ainsi, la conscience du tréfonds perçoit les choses de manière directe. Et donc, la conscience du tréfonds peut toucher la chose en soi. Elle est non voilée, tandis que les autres consciences sont voilées. Toutes les autres consciences peuvent être voilées parce qu'il y a les constructions mentales, il y a les illusions, les constructions mentales. Mais la conscience du tréfonds n'est pas voilée et elle a l'accès à la réalité ultime. Elle peut être en contact avec le corps du Dharma. Et c'est pour ça. Mais ce corps du Dharma, l'objet de la conscience du tréfonds, il y en a trois. La conscience du tréfonds embrasse tous les trois. Premièrement, les graines. Ensuite, le corps. Et troisièmement, le monde, c'est-à-dire l'environnement. L'autre jour, nous avons appris que le corps est la rétribution principale. L'environnement est aussi la rétribution, et l'environnement signifie les étoiles, le soleil et tout. Alors, la conscience du tréfonds embrasse tout le cosmos, y compris notre corps et toutes les graines. Tout ce qui se manifeste comme le corps ou comme notre corps ou l'univers. Et les graines dans la psychologie bouddhiste, bija en sanskrit, est équivalent à ce que les sciences appellent les particules subatomiques. Les particules subatomiques. Alors, dans chaque domaine, il y a la terminologie spécifique, ce que les bouddhistes appellent graines, les scientifiques appellent les particules subatomiques. Parfois, ils appellent la force des champs. Et puis, il y a la théorie des cordes, une théorie toute nouvelle. Et on peut démontrer scientifiquement que l'univers est fait des cordes. Alors, tous ces Toutes ces choses sont équivalentes aux graines dans le bouddhisme. Et comme H2O fait le nuage, l'eau, la glace, alors ce H2O représente la graine, et à partir de ces graines, il y a l'eau, la glace, le nuage, le brouillard. Tout ça représente l'environnement. Et H2O représente la graine. C'est pour ça qu'il faut apprendre à regarder l'univers, les étoiles, comme l'objet de notre conscience du Tréfonds. Et notre conscience du Tréfonds a l'accès à tout ça parce qu'elle n'est pas voilée. Elle peut percevoir directement. Et son objet est le corps du Dharma. C'est pour ça. On n'a pas besoin de transformer la conscience du Tréfonds. Si on dit que la conscience du Tréfonds a besoin de se transformer, alors c'est faux. Il est faux de dire que quand on devient arahat, on lâche la conscience du Tréfonds. C'est faux. Quand on devient arahat, on voit comment la conscience du Tréfonds illumine. Au fait, elle illumine tout le temps. C'est pour ça qu'il faut corriger le texte de Vasubandhu. Parce que selon l'étude de la manifestation seule, quand on atteint l'éveil, notre conscience devient le grand miroir qui brille. Mais au fait, il brille tout le temps. On n'a pas besoin de transformation. La conscience du Tréfonds n'a pas besoin de se transformer, mais ce sont les autres consciences qui ont des perceptions fausses, qui approprient la conscience du Tréfonds. Mais la conscience du Tréfonds n'a pas besoin de se transformer. C'est une nouvelle chose. La conscience du Tréfonds n'a pas besoin de se transformer. Elle est déjà le grand miroir de la sagesse. C'est pour ça qu'il faut corriger le texte. Elle est non voilée. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Mais quand on arrive au manas, même si le manas n'est ni mauvais ni bon, mais le manas est voilé. Ce n'est pas parce qu'elle est voilée qu'elle est mauvaise. Nous apprendrons plus tard. Nous savons que la conscience du Tréfonds doit s'appuyer aussi sur l'objet, parce que l'objet et sujet est une paire. Sans objet, il n'y aura pas sujet. C'est pour ça que la conscience du Tréfonds et l'univers ne sont pas un, ni l'un, ni deux. Alors, regardez ce morceau de papier. Il y a le recto et verso. Et les deux, nous croyons que sont deux choses séparées, le recto et verso, mais on ne peut pas les séparer. On ne peut pas demander à quelqu'un de prendre le recto et l'amener à Bordeaux, et puis une autre personne d'amener le verso à Toulouse. Non, c'est impossible, on peut pas séparer les deux. Et dans la conscience, c'est pareil. Le sujet et l'objet sont toujours ensemble, on peut pas les séparer. C'est pour ça, on peut pas enlever le corps du dharma, de la conscience du très fond, on peut pas enlever le cosmos de la conscience du très fond. C'est pour ça, quand on regarde les étoiles, on voit que c'est la conscience du très fond. Parce que les deux choses s'appuient l'une sur l'autre pour exister en même temps. Alors c'est ça, le sujet et l'objet. En Occident, il y a l'existentialisme, la phénoménologie. Il est clair que la conscience est toujours la conscience de quelque chose. Il est impossible d'avoir le sujet sans objet. Et c'est vrai, quand on voit, on doit voir quelque chose. Quand on est triste de quelque chose. On est triste avec quelqu'un. L'objet et le sujet vont toujours en parallèle. Et dans le manas, il y a la perception fausse, parce que le manas est voilé. Parce que en nous, il y a la vie. Et à cause de ça, dans la psychologie bouddhiste traditionnelle, il est dit que la conscience du tréfonds travaille seulement avec les cinq formations mentales universelles, mais en réalité, elle travaille avec d'autres formations mentales aussi, avec les formations mentales particulières, comme la concentration, la durée de vie. La concentration et la citta en sanskrit. Et elle travaille également avec la formation mentale. Vitalité. Élan vital. Vitalité. Ce n'est pas la durée de vie. Je me suis trompée, pardon. Et c'est pour ça. La conscience du tréfonds travaille avec travaille avec la formation mentale, vitalité, parce qu'elle maintient cette vie, la vie de ce corps. À l'ermitage, il y a un morceau de gingembre dans un coin, et personne faisait attention à ce morceau de gingembre, et puis ça pousse, ça germe, ça pousse. Le gingembre, comme la pomme de terre, c'est la vie. Si on laisse une pomme de terre quelque part dans la maison, et puis ça pousse, et c'est ça la vitalité. En nous, il y a aussi, il y a la même chose, il y a l'élan vital. On veut continuer à vivre, et c'est ça la conscience du tréfonds. Et c'est très clair, notre mental cesse de fonctionner parfois, par exemple pendant le sommeil, et on continue à vivre. Et cela montre que, à part le mental, il y a une autre conscience qui maintient la vie. C'est la conscience du tréfonds. Il y a l'élan vital dans la conscience du tréfonds. Et nous savons que la conscience du tréfonds s'appuie également sur le système nerveux central. Et dans notre corps, il y a le système nerveux autonomique qui comprend le cerveau, est sympathique, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique qui coordonne la vie, qui harmonise la vie intérieure. Même s'il y a les changements à l'extérieur, à l'intérieur, il y a l'harmonie, il y a l'harmonie intérieure. C'est ce qu'on dit en anglais c'est homeostasis. Parfois le mental s'en va, se promène quelque part, et la conscience du tréfonds continue à travailler. Quand le bébé naît, le bébé ne voit pas, n'entend pas, mais la conscience du tréfonds fonctionne déjà. Et donc la conscience du tréfonds va en premier et le mental la suit. Et c'est pareil quand on meurt, quand on commence à mourir, on n'entend plus, on ne voit plus, mais la conscience du tréfonds continue. Ce qui vient en premier et qui s'en va en dernier, c'est ça, c'est la conscience du tréfonds. Le dernier à partir, le premier à venir et le dernier à partir. Parce que dans la conscience du tréfonds, parce que la conscience du tréfonds contrôle et opère avec les autres systèmes nerveux et c'est pour ça quand nous avons faim, nous voulons manger. Quand nous avons soif, nous voulons boire. Il y a l'élan vital qui nous pousse à avoir l'énergie sexuelle pour avoir les enfants, pour la continuation de la lignée. Et donc, c'est très naturel. Comme ce morceau de gingembre dans un coin de la maison, à un moment, ça pousse, ça veut. La vie est taillée. A mis ce morceau de gingembre dans un bocal et taille le cultive. C'est pour ça que quand on a faim et on cherche quelque chose à manger, c'est quelque chose de très normal. Il n'y a rien de mal. Et quand on a soif, on cherche quelque chose à boire, ce n'est pas mauvais. Et quand on a envie d'avoir les enfants pour continuer la lignée, ce n'est pas mauvais. Mais ce qui n'est pas bien, c'est qu'on ne voit pas, comme le manas qui ne voit pas, premièrement sa faute, c'est Le manas croit que ce corps est un soi. Et c'est pour ça qu'il est voilé. On dit qu'il est voilé. Le manas est une conscience évoluée. Et il est le point d'appui du mental. Et le manas est né à partir de la conscience du tréfonds. La conscience du tréfonds est comme ça, et le manas est né à partir de la conscience du tréfonds, et puis il revient pour embrasser une partie de la conscience du tréfonds et considère que cette partie est le sien et la sienne. Alors l'objet de la conscience du tréfonds est la chose en soi, mais l'objet du manas n'est plus la chose en soi, parce que le soi est son objet. Il considère la conscience du tréfonds comme la sienne. Alors, il y a trois objets de la conscience du tréfonds, c'est la graine, le corps et le monde. Alors, et alors le manas est née à partir de la conscience du tréfonds, et puis elle retourne à la conscience du tréfonds, elle retourne à l'objet de la conscience du tréfonds, qui est le corps, pour l'approprier. Et dans le corps, il y a les cinq agrégats. Le manas embrasse une partie de la conscience du tréfonds, et comme il est voilé, il croit que cette partie est la sienne, et donc son objet n'est plus la chose en soi, mais son objet est le monde de la représentation, une construction mentale. Elle croit que ce corps, que cette sensation, que cette formation mentale, que cette perception lui appartiennent. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Elle ne voit pas que le corps et le monde et les graines viennent de la conscience du tréfonds. Et par contre, elle embrasse tout ça et cherche à les préserver comme ce qui lui appartient. Et le manas cherche le plaisir sensuel jour et nuit. Deuxièmement, il cherche à fuir la souffrance. Et troisièmement, elle ignore. Elle ne sait pas que la recherche des plaisirs sensuels est dangereuse. C'est bien quand on a faim et on cherche quelque chose à manger, mais si on n'a pas faim et on cherche toujours quelque chose à manger, alors ce n'est pas bien. Et elle ne voit pas non plus que la souffrance est nécessaire à l'être humain pour cultiver la compréhension et la compassion. Elle ne voit pas tout ça. Premièrement, elle cherche le plaisir sensuel. Deuxièmement, elle fuit la souffrance. Troisièmement, elle ne voit pas le danger de la recherche des plaisirs sensuels. Et quatrièmement, elle ne voit pas le bénéfice de la souffrance. C'est pour ça qu'elle fuit toujours la souffrance. Si vous fuyez la souffrance, c'est votre manas. Et cinquièmement, elle ignore la loi de la modération. Elle ne connaît pas cette loi. Et c'est pour ça qu'elle crée des difficultés. C'est pour ça le manas, même si le manas n'est ni bon ni mauvais, il est voilé. Et le manas est la subconscience qui s'accroche à la conscience du tréfonds. En Occident, il y a la psychoanalyse inventée par Dr. Freud. Freud dit qu'il y a une chose qui cherche le plaisir sensuel et fuit la souffrance. C'est la tendance. C'est la même tendance. Et cette chose ignore aussi la loi de la modération. Elle ne voit pas le danger de la recherche des plaisirs sensuels. Alors, Freud appelle ça S. Le ça en français. En anglais, c'est it. C'est le manas. Nous tous, nous avons ça. C'est la boue. Dans nos 5 agrégats. Les 5 agrégats que le manas embrasse n'ont rien de mal. Les 5 agrégats sont également les merveilles. Le corps est une merveille comme les fleurs, comme les bonbons. Mais parce que le manas n'atteint pas cette merveille, parce que vos 5 agrégats sont votre construction mentale. C'est pour ça ils ne sont plus une merveille, mais ils sont les 5 agrégats attachés. Quand ils sont libres, ils sont le corps du dharma, une merveille de la vie. Mais saisis par le manas, les 5 agrégats deviennent tu-un, deviennent les 5 agrégats attachés. Mais quand on enlève la voile d'ignorance du manas, ces 5 agrégats redeviennent une merveille du cosmos. Sans le manas, les 5 agrégats sont également le corps du dharma. Notre corps est une merveille, comme tout. Alors, d'après Freud, à part le ça, il y a le moi, alors le moi, c'est le soi, ce qui est caché en profondeur, qui demande le sexe, qui demande les plaisirs sensuels. Mais de plus, il y a le moi, et le moi est plus réaliste et plus pratique. Alors dans la psychologie bouddhiste, c'est l'équivalent de le manas et le manas est équivalent à le ça et puis le mental. Manovijñana en sanskrit. Le mental prend le manas comme point d'appui pour se manifester, alors il est équivalent au moi. Le moi est plus réaliste. Hein. Il dit, tu ne peux pas faire ça. Si tu fais ça, tu vas tout détruire. C'est pour ça, le moi, cherche à contrôler, cherche à inhibit en anglais, cherche à opprimer, parce qu'il y a des éthiques, la moralité, c'est pour ça que tu ne peux pas faire ça. Si c'est possible, il lui permet de faire un petit peu, mais en général, il arrête les comportements qui ne sont pas appropriés aux conventions sociales. Par exemple, nous avons tellement soif et nous allons au restaurant. Nous avons commandé un verre de boisson et nous attendons longtemps. Et puis le voisin à côté, il a une boisson très fraîche et bonne. Nous avons tellement envie de boire et nous voulons prendre cette boisson. Mais le moi dit, non, tu peux pas faire ça. Et c'est pareil pour le comportement, comment on se comporte devant quelqu'un de l'autre sexe. Parfois on a envie, mais le moi nous arrête. Alors, le moi a son origine dans le ça. Et en dessous, en profondeur, le ça et le moi sont ensemble. À partir de cette partie, ils se séparent, mais en bas, en profondeur, ils sont ensemble. C'est pour ça, le moi agit. Il a envie aussi, mais la réalité ne lui permet pas. Mais au-dessus du moi, il y a encore le surmoi, le super-ego, super-ego en anglais, le surmoi. Alors, sur le moi, il y a encore le surmoi qui cherche à satisfaire les besoins profonds avec l'art, avec la création, avec la spiritualité. et c'est ce qu'on, et c'est le chemin de la sublimation. On veut monter dans quelque chose de plus beau. C'est pour ça, sur le moi, il y a le surmoi qui aide à harmoniser. Pas pour opprimer, mais pour harmoniser, satisfaire. Alors, en bas, c'est le ça. Et puis, ici, c'est le moi. Et puis, au-dessus, c'est le super moi. Et c'est différent dans la psychologie bouddhiste. La conscience a l'objet et le sujet. Si nous avons les documents de la biologie, nous voyons les établissements de tout ça. Par exemple, dans notre cerveau, il y a l'hypothalamus dans lequel il y a les fonctions, comment faire quand on a soif. Quand on a soif, on boit. Quand on a faim, on mange. Et quand il faut la continuation de la lignée, il y a l'énergie sexuelle. Alors, il y a déjà des établissements physiologiques. L'esprit et l'environnement vont ensemble et on pense que le super-ego se trouve sur le cerveau frontal, parce que quand on enlève cette partie, alors on n'est plus capable de faire les décisions, de prendre les décisions, et il y a plus le moi qui contrôle. Surtout pour le comportement devant une personne de l'autre sexe, c'est parce que cette partie frontale n'est pas là, et donc on n'est plus capable de prendre des décisions, on ne sait plus comment se comporter devant quelqu'un de l'autre sexe. C'est pour ça qu'on sait que le super-ego est très lié au cortex frontal. Mais dans le bouddhisme, c'est clair que le mental peut regarder profondément, que l'objet que vous embrassez, que vous considérez comme le vôtre, ce n'est pas vraiment le vôtre. Il y a une connexion entre le corps et le monde. Si vous enlevez le monde, vous n'avez plus le corps. Tout ça, le corps comme le monde, viennent de la graine. Et ce regard profond nous montre la vision de l'inter-être, du non-soi, et ce qu'on appelle Yidi Guangjiu, la capacité de regarder profondément, ou bien le super-ego de Freud, ça nous aide à nous développer dans l'art, dans la moralité, dans la créativité, mais également à regarder profondément l'inter-être de toutes choses, pour éclairer le manas, pour montrer et pour comprendre que le manas a une perception fausse, en embrassant une partie de la conscience du tréfonds et en l'appropriant comme la sienne. en lisant Freud, nous voyons plus clairement que dans le bouddhisme, la partie du manas, la subconscience, et la subconscience et le mental s'appuient sur le manas, et le mental peut regarder profondément pour éclairer le manas, pour enlever l'ignorance du manas. Il y a une chose qui est à nous souvenir aujourd'hui, c'est l'inter-être entre la souffrance et le bonheur. La souffrance et le bonheur sont étroitement liés jusqu'au point que sans l'un, l'autre n'existerait pas. Mais dans la tradition, on imagine qu'à un moment, il n'y aura plus du tout de souffrance et il ne reste plus que le bonheur. C'est la chose la plus importante dans nos études de cet hiver. Dans la tradition, très souvent, on croit qu'il est possible d'atteindre la pureté parfaite qu'il est possible d'avoir seulement le bonheur sans aucune souffrance. Et cette croyance s'oppose à la vision non dualiste, à l'inter-être. Sans la souffrance, il n'y aura pas le bonheur. Comme sans la boue, il n'y aura pas de lotus. Parce que le but d'un pratiquant, ce n'est pas d'enlever toute la boue. Mais le but d'un pratiquant, c'est d'utiliser la boue pour cultiver le lotus. Imaginons, ici c'est l'étang de lotus. Ici c'est l'eau, la surface d'eau. Et puis, il y a la fleur de lotus qui pousse, qui monte. Ici, c'est la boue, l'eau et le lotus. Imaginons, s'il n'y avait pas de boue, il n'y aurait pas de lotus. C'est pour ça, nous rêvons de pratiquer jusqu'à ce qu'il y ait seulement le lotus et pas de boue. Alors c'est impossible, parce que le lotus a besoin de la boue. Mais il y a un moyen de réduire la souffrance, c'est la pratique. Semer les bonnes graines. C'est pour ça. Alors, l'être humain demande toujours l'absolu, le bonheur absolu. Mais dans la vie, il n'y a pas l'absolu. Si vous voulez le lotus, il faut la boue. C'est pas possible de laisser la boue nous envahir partout. On garde la boue à un niveau nécessaire, c'est tout. Nous ne pratiquons pas pour enlever complètement toute la boue, parce que sans la boue, il n'y aura pas non plus le lotus. Alors, tout ça inter-est. C'est pour ça que c'est c'est impossible de trouver le bien absolu sans le mal ou le pur absolu sans l'impur. Alors c'est tout ça, c'est l'illusion. C'est pour ça qu'il faut apprendre à accepter la boue, la souffrance. Il faut apprendre à accepter le ça. Mais il faut faire, il faut comment faire pour aider le ça, pour le transformer en quelque chose de meilleur, comme le lotus. Parce que sans l'un, il n'y aura pas non plus l'autre. On continuera jeudi prochain.